l'histoire d'un comédien de second rang. Un gars qui a fait une école de théâtre et qui cherche le rôle qu'il mènera tout en haut de l'affiche. C'est l'histoire d'un gars un peu impatient. Est-ce qu'il y a parfois des gens ici un peu impatients? Oui, ça t'arrive? Et qui se dit, mais quel est le rôle? Alors il va de casting en casting, mais à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous imaginez le déboire du gars. Et un jour, un de ses amis lui téléphone. « Hey, j'ai un rôle pour toi, c'est quoi ?» Alors il lui dit, bah, « Écoute, c'est un cirque qui est en déficit d'animaux. Tu rentres dans la peau de l'animal, tu joues le rôle et surtout tu touches le cachet. » Alors le gars est un peu gêné parce que il pensait qu'il valait mieux que ça. Mais finalement, il se dit qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sauts de gens. Alors il se dit « Ok, ça marche » et il se présente et il est embauché. Ce jour-là, ce soir-là, il doit faire le grand singe, au début un peu maladroit, sur la piste aux étoiles. Mais parce qu'il y a beaucoup d'enfants là, qui sont là et qui le stimulent, bientôt il se sent de plus en plus à l'aise. Alors en réalité, il commence à prendre une liane, à se pendre ici, là, sous les acclamations, les hurrahs des enfants, des petits et des grands. Et là, il se lâche, quoi. Et c'est un moment spécial, c'est un moment particulier, jusqu'au moment où sa main glisse. Et il se retrouve dans la fosse au lion. Alors la panique est totale. Il essaie d'enlever le costume et il crie et il crie « Je ne suis pas un gorille ! Je ne suis pas un gorille ! Je ne suis pas un gorille !» Et dans le lion, il y a une voix qui retentit et qui dit « Tais-toi ! Sinon, on va perdre notre job. » Qui pense que c'est important de savoir qui nous sommes et à quoi nous sommes appelés? En tant qu'enfants de Dieu, ça va nous éviter de goriller sur une branche ou une autre dans cette société qui a besoin de rencontrer d'authentiques et de véritables enfants de Dieu. Alléluia. Qui pense que c'est important de savoir qui nous sommes et à quoi nous sommes appelés? Tu peux mettre le titre. J'ai un sermon un peu spécial ce matin pour vous. Un peu particulier, mais ça brûle au fond de mon cœur depuis plusieurs jours en pensant à ce moment que nous allions passer ensemble. Et voilà mon propos. Si vous voulez marcher sur l'eau et vivre dans la dimension du miracle, alors vous devez d'abord savoir qui vous êtes. Premièrement, vous devez savoir à quoi vous avez été appelé. Deuxièmement, et troisièmement, il vous faudra oser sortir de votre barque. Parce qu'un bon conseil, le miraculeux ne viendra que dans la mesure où vous sortirez de vos barques. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen ou quelque chose? Hallelujah! Il vous faudra sortir de vos barques, alléluia. Je crois que vous êtes des gens extraordinaires, non pas seulement à cause de vous, mais à cause de celui qui habite en vous. Je crois qu'il y a en vous assez de puissance pour révolutionner toute cette région. Quelqu'un dit quelque chose? Oui! Je crois qu'il y a assez de foi, de manifestation de la gloire de Dieu pour que notre société en France soit changée du tout au tout, à Dieu soit la gloire. Et je prie ce matin pour que ce culte soit comme un incubateur, comme un accélérateur de destinée. Et que vous et moi, nous puissions entrer dans les choses que Dieu a préparées pour nous d'avance et dans ces choses extrêmement nécessaires dans les temps que nous vivons à cause de la société dans laquelle nous sommes. On raconte qu'un jour un enfant, se promenant dans les rocheuses, trouva au coin d'un buisson un œuf. Et son papa étant fermier, ayant un grand élevage, il va prendre cet œuf, assez gros, et l'amener dans la basse-cour de son père. Et on raconte que cet œuf va être couvé par quelques poules de la basse-cour. Et curieusement, quelque temps plus tard, de cet œuf va éclore un poussin. Il était un peu spécial, pas la même couleur que les autres, avec un bec un peu crochu. Je ne sais pas si vous imaginez, voyez un peu. Mais en réalité, lui ne savait pas qu'il était d'une autre nature que les poulets de la basse-cour. Alors il regardait ses corollégionnaires et essayait d'imiter un petit peu quand une poule grattait le sol. Alors lui aussi grattait le sol. Quand un poulet mâchouillait un bout de verre, alors il regardait, il imitait, il faisait la même chose. Il ne savait pas en réalité qui il était. Mais il y a quelque chose qui va bouleverser la vie de cet aiglon, puisqu'en réalité c'était bien de cela dont il s'agit, c'était un aiglon, c'est un cri strident, le cri d'un aigle royal qui passera au-dessus de la ferme. Et ce cri va réveiller dans le cœur de cet aiglon la raison de sa destinée, le pourquoi il est là, et d'un seul coup, il va prendre conscience qu'il n'est pas un vulgaire poulet appelé à gratouiller la terre et à mâchouiller des vers jusqu'à la fin de ses jours. Il va étendre ses ailes. Il va décoller, s'envoler. Quelqu'un dit Alléluia. Et je crois que Dieu voudrait que dans cette année 2015, j'espère qu'elle a bien commencé pour vous, nous puissions entrer dans notre destinée, que nous puissions décoller, connaître notre destinée et vivre des temps particuliers parce que c'est la volonté de Dieu, à lui soit la gloire. Peut-être encore pour dire ceci en introduction de mon message. Vous avez certainement entendu parler du frère John Wimber, certainement. Il a écrit des livres très très intéressants. Allez guérissez, notamment un très bon livre sur la guérison divine. John Wimber est aujourd'hui auprès du Seigneur, mais dans les années 80-90, il a été un implanteur d'églises aux États-Unis. Près de 200 églises ont été implantées par son ministère. Un apôtre de Dieu remarquable. Et il a remis dans certains milieux évangéliques la pensée de ce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus guérit encore aujourd'hui. John Wimber n'a pas toujours été un pasteur, un homme de Dieu authentique. John Wimber, c'est l'histoire d'un homme qui était pianiste de bar aux États-Unis, à Las Vegas. Il gagnait sa vie la nuit à cause de son don de pianiste et vivant la nuit, bien des choses vont se dégrader dans son histoire et il raconte dans son témoignage situation des plus compliquées. Sa femme vient de le quitter, ne pouvant plus supporter ce milieu de nuit. Lui est accro à la drogue, à l'alcool. Il vit toutes sortes de situations des plus difficiles. Ce soir-là, il a des pensées de suicide. Il en a marre. Il prend conscience que cette vie ne lui apporte rien. Et alors qu'il monte dans sa chambre après avoir fait sa prestation, il découvre là pour la toute première fois dans sa chambre d'hôtel, sur la table de nuit, une, un Nouveau Testament, première, deuxième partie de la Bible, que le groupe Gédéon avait déposé. Et là, pour la première fois, il raconte qu'il va ouvrir le livre et découvrir le Jésus des évangiles. Après avoir lu plusieurs chapitres, l'Esprit de Dieu le saisit, le touche. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas un Billy Graham de service pour prêcher l'évangile à cet homme. Le Saint-Esprit le convainc de péché, de justice, de jugement. Et l'Esprit de Dieu le bouscule intérieurement. Il y a quelque chose qui se passe. Quelques moments plus tard, il est à genoux en larmes. Il donne sa vie au Seigneur. Comme on l'a chanté ce matin, je te donne mon cœur. Un moment fort, un moment puissant, un moment glorieux comme on aime. Et puis la suite, c'est un homme qui va dévorer la parole de Dieu pendant 15 jours, 3 semaines, un mois et demi. Son seul livre de chevet, c'est le livre de Jésus, les évangiles. Et il apprend à connaître le Seigneur, son Seigneur. Il apprend à comprendre son plan, sa destinée, dans une connexion directe avec la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. Et puis l'histoire, c'est qu'à un moment donné, prenant conscience qu'il avait probablement besoin de communion fraternelle, il découvre qu'il y a une petite église baptiste à côté de chez lui, de son logement. Il décide d'y entrer. Et là, il rencontre des frères comme vous qui chantent des cantiques, qui prient et ça touche abondamment son cœur. Il décidera de s'y faire baptiser. Entre-temps, le miracle s'installe, sa femme revient et tous les deux baptisés, assidus aux réunions. Et puis un jour, ça brûle dans son cœur de rencontrer le pasteur. Alors vous savez, c'était une église un peu conservatrice, un peu coincée, on va dire. Pasteur n'avait pas trop l'habitude. Pasteur, je voudrais vous rencontrer. Est-ce que je pourrais avoir un entretien? Et voilà que le pasteur le reçoit. Il y a deux anciens, un à droite, un à gauche. Et John est là, juste devant, devant le bureau. Et quand vous savez, ce genre de feu qui brûle dans le cœur d'un jeune converti, on ne prend pas conscience qu'on va mettre les pieds dans le plat, mais on met quand même les pieds dans le plat. Alors, il dit, pasteur, c'est extraordinaire et vraiment merci de nous avoir accueillis, mon épouse et moi-même, depuis que fréquente votre église, on est tellement bénis, il y a tellement de belles choses. Et il est sincère quand il dit cela. Il ajoute, mais j'ai dû manquer quelque chose. Je voulais juste vous demander, c'est quand que ça commence les vraies affaires? Alors, le pasteur lui dit, les vraies affaires, John, mais qu'est-ce que tu entends par les vraies affaires? Oui, les vraies affaires, comme dans l'Évangile. Chasser les démons, libérer ceux qui sont sous les chaînes de la captivité, guérir les malades, ressusciter. Quand est-ce que, c'est peut-être un jour spécial en semaine où vous faites le ministère de cette manière-là, quand est-ce que ça commence les vraies affaires? Et là, le pasteur est un peu gêné. Vous savez, nous les pasteurs, on a appris à calmer les ardeurs. Alors il dit, John, calme-toi, Dieu a mille et un moyens pour intervenir dans la vie des gens. Il agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Essaye de gagner du temps. Mais ça ne passe pas parce que John, non, pasteur, c'est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est quand ça va commencer les vraies affaires? Et là, il y a l'ancien qui est un peu plus virulent que le pasteur. Il se lève et dit, John, t'as pas compris, va-t-il lui dire. Ici, on en parle, mais on ne le fait pas. Ici, on en parle, mais on ne le fait pas. Est-ce que quelqu'un peut dire aïe, 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 aïe? J'aimerais vous dire ce matin que ce sera comme le déclic dans son témoignage. Dans sa biographie, John Wimber dira, cette parole a déclenché quelque chose dans mon cœur. Et quand je suis parti du bureau du pasteur, j'ai dit non seulement je veux en parler, mais je veux le vivre. Et Seigneur, puisque tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, alors je me mets à ta disposition pour que tu te manifestes glorieusement par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu, si tu veux marcher sur l'eau, je fais référence à l'histoire de Pierre qui osera sortir de la barque, si tu veux vivre le miraculeux de Dieu et commencer à entrer dans une dimension de gloire et de puissance, alors certainement il faut commencer par oser sortir de ton bateau. Le bateau, la barque, peut représenter beaucoup de choses pour vous comme pour moi. Mais il me semble y voir le lieu de mon propre fonctionnement. Il me semble y voir le lieu de mes propres habitudes, le lieu de ma sécurité où je me sens juste bien, juste rassuré, juste en sécurité. Un lieu, on est bien ce matin, on est bercé par la présence de Dieu et parfois ça nous rassure. Mais Dieu voudrait ce matin insister sur le fait que pour vivre des expériences puissantes avec le Seigneur, il faut, et je ne parle pas de quitter l'Église, mais il faut sortir de nos barques. Et finalement, en relisant les évangiles cette semaine, je découvrais que depuis ce moment où l'appel de Dieu a retenti dans le cœur des disciples sur les plages de la Galilée, Dieu, Jésus-Christ, n'a jamais cessé de vouloir amener ces gens à sortir de leur barque pour sortir de leurs limites, pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour eux d'avance. Amen. Il dira, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de marcher sur les eaux. Et je crois que Dieu voudrait nous amener à entrer dans cette réalité par sa grâce et au travers de sa puissance. Alors, quelqu'un dira, c'est quoi pour moi, pasteur, sortir de mon bateau, de ma barque? C'est peut-être confronter tes craintes par rapport à quelque chose qu'il a pourtant si précisément dit à ton cœur. C'est assurément commencer à expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. C'est entrer dans la profondeur de notre destinée pour vivre une vie en connexion avec les besoins de notre génération. Beaucoup de prédicateurs en abordant, et j'arrive au texte, beaucoup de prédicateurs en abordant cette histoire ont mis le focus sur ce moment où Pierre a douté. Et Pierre, il a voulu faire son malin. Et Pierre, il n'a pas eu confiance au Seigneur. Et j'ai tellement entendu de sermons fustigeant l'apôtre Pierre au moment où il a commencé à voir le vent souffler et les creux de vagues l'impressionner. Mais j'aimerais dire, n'attendez pas de moi ce matin que je puisse tenir ce langage-là. Lorsque je lis cette portion de l'Évangile, je suis touché, impressionné, bousculé, et je me dis, au moins lui, il a osé. Au moins lui, il a osé obéir. Il a osé répondre à l'appel du Maître. Et il a commencé à vivre quelque chose d'incroyable. À Dieu soit la gloire. Alors, je n'ai pas spécialement de sympathie, d'empathie pour les 11 qui sont restés dans la barque. mais j'ai un cœur pour ce que Pierre a démontré ce jour-là. Et je crois vraiment que Dieu voudrait faire habiter de cette foi qui entre dans des choses incroyables et véritablement qui vont bouleverser le monde. Alléluia. Connaissez Astérix ? À un moment donné, dans l'histoire d'Astérix, je ne sais plus lequel c'est, ils ont capturé le druide. Et les Romains, sous la torture, lui disent « Tu vas nous faire de la potion magique. » Alors, commence à préparer un chaudron. Et puis, le centurion va commencer à boire de cette soi-disant potion magique. Alors, voilà, il cherche une pierre énorme pour tester sa potion magique. Et, oh, il ne peut pas. Il dit peut-être qu'elle était trop grosse. Alors, on cherche une plus petite. Oh, j'arrive pas. Il cherche encore une plus petite. Oh, il ne peut pas. Puis à la fin, il prend un petit caillou et puis il lève et le centurion déclare « Je suis l'homme le plus fort du monde !» Et puis, il y a un de ces hommes qui est là et qui dit « Waouh, c'est vraiment impressionnant, chef !» J'aimerais vous dire que parfois, dans nos milieux évangéliques, on se gargarise de choses qui finalement ne sont pas spécialement des exploits. Mais nous avons chanté ce matin avec raison, avec Dieu. Nous ferons des exploits et je prie ce matin pour que cette onction d'exploit me saisisse à cause des hommes et des femmes qui sont autour de moi. Je ne veux plus jouer à l'église. Mais je veux être vraiment cet homme de Dieu. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Fais-nous grâce, Seigneur. Alors la foi qui sort de la barque, c'est tout d'abord la foi qui dit, je n'attendrai plus qu'il n'y ait plus de tempête, que mes problèmes soient tous réglés pour commencer à faire quelque chose pour Jésus. La foi qui sort de la barque, c'est la foi qui dit « Je n'attendrai pas que ma vie soit parfaite, nickel, sans problème, pour commencer à répondre à l'appel de Dieu. » La foi qui sort de la barque, c'est cette foi qui dit « Je n'attendrai pas que ma vie sentimentale soit voilà, rangée, que je sois marié, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à expérimenter la grâce de Dieu. » La barque représente tout ce qui me limite, tout ce qui me contraint à une vie dépourvue de surnaturel. Oser sortir du bateau, c'est enfin prendre la victoire sur tout ce qui pourrait nous limiter pour vérifier que le Seigneur a dit la vérité. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Alors, on va lire le texte. Et puis, je voudrais avec vous retenir, dans ce deuxième partie de message, trois leçons qui me semblent des plus importantes pour nous ce matin, pour moi, mais aussi pour chacun d'entre nous. Tu peux mettre la diapo suivante. La barque. Déjà au milieu de la mer, était battu par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Parce que vous imaginez, il faisait nuit, c'était la tempête, il y avait des creux incroyables. Et là, il commence à pousser des cris. En réalité, quand il dit « c'est un fantôme », il se dit « ça y est, c'est la grande faucheuse qui vient me chercher. Notre dernière heure est arrivée. » Et la Bible dit « dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit, il a su discerner dans cette tempête qu'il y avait comme un kairos de Dieu pour sa vie. Vous savez, il y a deux mots pour décrire le temps. Il y a le mot chronos dans les Écritures et kairos. Le mot chronos dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, c'est le temps qui passe, le temps qui s'écoule. Mais le kairos de Dieu, c'est la pensée d'un temps que Dieu a préparé pour chacun de nous. Et en réalité, à ce moment-là, Pierre discerne que dans cette tempête, j'aimerais vous dire que souvent dans les tempêtes de ma vie, de mon histoire, Dieu préparait ses plus belles œuvres. Et il a compris que dans cette tempête, quelque chose pouvait se passer. Et l'Écriture nous dit, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne, prophétise, déclare, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus va lui dire, « Viens, Pierre, qui pense que c'est une parole puissante, se vient. Viens, viens. » Et l'Écriture nous dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Vous croyez la parole de Dieu? Vous croyez que ce qui est écrit, il a été pour notre instruction? Alors l'Écriture nous dit, et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, alléluia. Voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et l'Écriture nous dit, « Ils montèrent dans la barque et le vent cessa et nous disons Amen. » Je voudrais retenir trois leçons qui voudraient nous permettre de sortir efficacement de nos bateaux. La leçon de la foi ou de la présomption. La leçon du focus ou de la panique. La leçon de la fidélité et de la patience à l'école de Dieu. La leçon de la foi ou de la panique. Seigneur, si c'est toi, dira Pierre, ordonne. Moi, de marcher vers toi sur les eaux. Alors j'ai essayé de décrire un peu le contexte. Vous l'avez compris, il fait noir, la tempête est forte, et pourtant les gens qui sont dans le bateau, ce sont des professionnels de la mer. Mais ils sont tous complètement déstabilisés. Et au milieu de ces gens qui sont complètement paniqués, Pierre va avoir une réaction qui mérite d'être retenue. Dans cette ombre qui se dessine au loin, on n'imaginait pas que ce soit Jésus, c'est le seul qui a discerné que c'était le Seigneur. Est-ce que tu discernes que derrière les problèmes que tu rencontres actuellement, est-ce que tu discernes derrière les difficultés de santé, les problèmes à ton travail, est-ce que tu discernes qu'il y a quelque chose de Dieu derrière tout cela? Tous disaient, c'est la mort qui nous attend, on va mourir. Ils disaient, c'est un fantôme, mais lui discerne quelque chose. Et il va simplement dire, Seigneur, si c'est toi, alors commande, ordonne, donne-moi un ordre, et alors j'obéirai à ce que tu me commanderas. Je crois que l'accès au miraculeux passe toujours par les mêmes actions. La première action, c'est de discerner ce que Dieu fait, de capturer sa pensée, son ordonnance. Et la deuxième action, c'est d'obéir à ce que Dieu me demande. La parole que je dois recevoir et l'attitude d'obéissance qui va débloquer la situation et manifester la gloire de Dieu. Toutefois, j'aimerais vous dire qu'il y a une grande différence entre la foi, et je veux vraiment être équilibré ce matin, je ne suis pas un prédicateur, j'essaye de ne pas être un prédicateur farfelu. Je veux vraiment faire la différence entre la foi et la présomption. La présomption, c'est quoi? C'est quand au nom de la foi, je commence à faire mes propres affaires, à prendre mes propres initiatives, en me persuadant que de toute façon, Dieu va me suivre et qu'il sera avec moi. Ça, ce n'est pas de la foi, c'est de la folie. Ça, ce n'est pas de la foi, c'est de la présomption. La présomption, c'est le frère qui n'est pas très heureux de son boulot, il y a trop de pression, il n'est pas assez payé, ça vous arrive? Il y a toujours le patron sur le dos, il en a marre. Et la présomption, c'est le gars arrive le soir chez lui et dit « Hey chérie, faut que je te dise, je viens de donner ma dem. » Et sa femme est « Je viens de donner ma démission, mais ne t'inquiète pas, j'ai la foi que Dieu va faire quelque chose pour nous. » Est-ce que quelqu'un dit « Aïe, aïe, aïe ». Là, la présomption, c'est de décider quelque chose. On n'a pas prié, on n'a pas été à l'écoute de Dieu, on n'a rien reçu. Mais on pense que finalement, une décision de notre part va faire mouver le bras de Dieu. Et je dis, ce n'est pas de la foi, c'est de la folie. La présomption non de la foi, c'est chercher à vivre de toute façon une aventure. En prenant, soi-disant, mon envol, certains changent d'église, certains changent de job, certains changent de région, certains changent de métier, je change de... Un jour, un homme est venu dans l'église où j'étais pasteur, il a dit « Pasteur, je change de femme ». Il a bon. Alors il m'expliquait que la femme avec laquelle il était voulait rien entendre par rapport au service de Dieu et qu'il était agacé parce que lui, il tournait en rond. « Je change de femme ». Est-ce que vous pensez que Dieu puisse être d'accord avec ce genre de situation? On a vraiment besoin de comprendre que Dieu veut que nous puissions nous méfier de nous-mêmes par rapport à nos présomptions. Combien de jeunes femmes désespérant de se marier ou de jeunes gens rencontrant le beau collègue de travail complètement athée on dit à leurs parents, « Mais maman, t'inquiète pas, j'ai la foi qu'il viendra à l'église. J'ai la foi qu'il se convertira. J'ai la foi que le Seigneur touchera son cœur. » Et je répète, ce n'est pas de la foi, c'est de la folie. On en a ramassé la petite cuillère d'état. Je pense que Dieu voudrait nous apprendre à discerner entre la foi et la présomption, mais je peux vous dire que ce jour-là, pour Pierre, ce n'était pas de la présomption, c'était de la foi. Seigneur ordonne, dis un mot. Et il a entendu, dans le rugissement de la tempête, la voix de Jésus retentir. Viens, Pierre, sors de la barque. Il n'a même pas pensé, mais personne ne l'a jamais fait. Mais je vais enfoncer. Non, il a compris que c'était la parole de Dieu. Alors, il a osé faire, alléluia. Moi, je me souviens de toutes sortes d'expériences. Dieu m'a conduit depuis des années à aller en Afrique faire des campagnes d'évangélisation. On a emmené Noémie, on était fiers de l'avoir avec nous. Et je me souviens de cette période, peut-être 3-4 ans. J'avais des problèmes de santé, ça a duré près d'un an. Des crises à répétition. Au début, c'était une crise toutes les 3 semaines, à la fin, c'était une crise tous les 3 jours. Quand j'avais cette crise, j'étais plié en deux, je vomissais toute la nuit. Et curieusement, c'était souvent le samedi soir, alors que j'avais ma journée à faire du dimanche. Et j'avais subi toute une batterie d'examens dans les hôpitaux de la région parisienne, sans qu'ils ne comprennent que finalement c'était juste un problème de vésicule biliaire. Alors ils m'avaient examiné de la tête aux pieds, c'était un moment spécial. Et puis, une mission en Afrique m'attendait. Dans l'église où j'étais, il y avait 4 médecins. Et les médecins chrétiens, amis, me disaient « Philippe, surtout, n'y va pas ». J'avais 3 collègues pasteurs qui travaillaient avec moi dans l'équipe. Me disaient « Philippe, n'y va pas ». J'avais une missionnaire à la retraite qui était dans l'église. Elle me dit « Tu sais, les Africains, ils prêchent bien. Laisse-les prêcher et reste avec nous ». Je lui posais la question à ma femme, et ma femme me disait, écoute chérie, si vraiment tu sens qu'il faut y aller, vas-y, mais sinon moi je préférais que tu ne tentes pas l'aventure. Et puis, c'était une semaine avant de prendre l'avion, j'ai pris du temps pour prier. Et je me souviens de ce moment particulier où le Saint-Esprit m'a dit, Philippe, je t'attends là-bas. C'est spécial. Alors j'ai dit aux collègues, j'ai dit à la missionnaire, j'ai dit à mes amis médecins, je tente l'aventure, je crois que Dieu m'attend là-bas. Alors j'aurais aimé vous dire que le fait d'avoir été en Afrique, j'aurais pas été malade, j'avais pris de la morphine pour calmer mes crises. Une fois dans une grande campagne, j'ai dû prendre de la morphine, je ne sais pas ce que j'ai prêché ce soir-là, parce que je voyais du rose un peu partout. Mais bref, j'ai osé obéir à Dieu et ça a été une des campagnes les plus puissantes, les plus glorieuses et les plus fructueuses que Dieu nous a permis de vivre. Je crois que lorsque Dieu nous appelle à entrer dans son dessein et dans son projet, alors il faut oser faire. Et il faut croire que Dieu va honorer notre foi. Amen. Et peut-être ce matin, plusieurs ici sont dans la compréhension de quelque chose que Dieu attend de toi. Et vraiment, je voudrais t'encourager à oser sortir de ta barque parce que Dieu sera avec toi. La leçon, deuxièmement, du focus et de la panique. Ça vous arrive de paniquer parfois, ça m'est souvent arrivé. Le texte, on l'a lu et je passe bien vite. Si c'est toi, ordonne-moi de marcher sur les eaux, je suis prêt à obéir. Et Pierre entend Jésus lui dire, viens. Et la suite, on connaît. On aurait aimé que le vent se calme aussitôt qu'il a posé le pied hors de la barque. Oui ou non? On aimerait que sur la base d'une action de foi concrète, mes problèmes se règlent d'un seul coup. J'aimerais bien que ça se passe à chaque fois comme ça. Parfois, c'est arrivé. Mais souvent, le vent a commencé à souffler, a continué à souffler. Et ma question est simple. Alors que je suis dans une période de tempête et que je suis dans l'obéissance à Dieu, sur qui vais-je fixer mes regards? Sur les circonstances de ma vie, sur les circonstances et les difficultés que je rencontre, je vais fixer mes regards sur quoi? Sur mes propres capacités. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, choisi par le Seigneur, je vais poser le focus sur quoi? Ou sur Jésus, mon sauveur et mon maître, celui qui à l'occasion, m'a parlé, celui qui m'a dit, viens, sors de ton bateau. Et je crois que c'est ce regard qui va grandement déterminer ce qui risque de nous arriver à l'heure de la tempête. Parce qu'il n'est pas suffisant de faire à un moment donné un pas de foi. Mais je crois que la foi, c'est une attitude de cœur au quotidien, alléluia. En venant dans la région nord, avec Sylvie, mon épouse, on a fait des pas de foi. Mais si je devais m'arrêter là et commencer à paniquer face à des situations non réglées, eh bien, la foi que j'ai manifestée hier, elle ne me servira pas à grand-chose ce matin. Et nous sommes appelés à comprendre et à réaliser. Alors, moi j'aime bien Pierre, et je finis par là sur mon deuxième point, c'est un personnage qui nous ressemble, en tout cas qui me ressemble. C'est pas un faux ange, c'est un gars comme vous et comme moi. Pierre, c'est le tempérament que l'on connaît, c'est la nature que l'on connaît. Elle nous ressemble. Et moi, j'imagine, parce que nous, les pasteurs, je ne sais pas, mais Bruno, toi aussi, tu as d'imagination. On est imaginatif. Alors, j'imagine Pierre qui commence à marcher sur l'eau. Waouh ! I am the man ! Ouais ! Vous imaginez ? Il prend conscience qu'il vit quelque chose de miraculeux. Et parfois, quand on vit ce genre d'histoire, alors quelque chose se passe dans notre cœur, pas si c'est de l'orgueil, je ne sais pas si, mais on commence à se dire, oui, quand même, tu es un bon, et Dieu t'utilise, il t'a choisi, I am the man. Et alors j'imagine, parce qu'il avait quand même essuyé les moqueries de ses collègues, alors il commence à dire, hé les gars, regardez, je marche sur l'eau, je suis un homme extraordinaire. Moïse, lui, il a dû séparer la mer rouge et marcher, mais moi je marche sur l'eau. Personne n'a jamais fait ça. Et puis, vous savez, lorsque l'on commence à se prendre la tête, lorsque l'orgueil commence à nous saisir, alors finalement, Dieu retire bien vite sa main. Et on se retrouve dans la situation de Pierre, qui commence à enfoncer la panique à bord. Glou, 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 glou. Je voudrais juste dire que Dieu utilise des gens qui ont leurs limitations, leur caractère, leur manière de faire. Mais je crois en réalité que ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va faire grâce à Pierre, et c'est mon dernier point pour ce matin. Il est question ici, dans le dernier point, de souligner la leçon de la fidélité, de la patience à l'école de son amour. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et le texte dit, « Aussitôt Jésus étendit sa main et le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu douté ?» J'aimerais vous dire que ça, c'est mon Jésus. Ça fait 27 ans que je le sers dans le ministère. Ça fait quelques années que je marche avec lui. Ça, c'est mon Jésus. Peut-être dans la barque, quand il a commencé à couler, les autres disciples ont commencé à dire des gna 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 gna. Mais j'ai une pensée très théologique pour chacun de nous ce matin. Je vous assure qu'il n'y aura pas, et il n'y a pas, et il n'y a jamais eu de gna 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 au ciel. Dieu, dans son amour, nous connaît par cœur, connaît nos limitations, nos faiblesses. Alors, en même temps qu'il est en train de l'enseigner, pourquoi as-tu douté ? Et croyez-moi, c'est juste une parole en disant, mais t'avais juste à fixer ton regard sur moi et tu ne serais jamais coulé, tu aurais fait des kilomètres sur la mer. Pourquoi as-tu douté ? Et ce n'est pas une parole dure, c'est une parole d'exhortation, c'est une parole d'encouragement. En même temps qu'il est en train de l'enseigner, il l'arrache au danger. Avez-vous il lui parle et il prend par la main pour le sortir d'affaire. Qui pense que ça fait du bien d'avoir un tel maître. Alléluia. Il enseigne et en même temps qu'il l'enseigne, il lui prend la main. Et je crois que cette école de la vie est tellement précieuse pour nous parce que la meilleure école pour grandir, c'est pas quelqu'un qui me crie dessus. En tout cas, s'il y a des parents qui fonctionnent comme ça, ça n'a jamais marché. C'est quelqu'un qui donne le conseil nécessaire, qui enseigne, qui explique pourquoi ça n'a pas marché, mais qui prend la personne par la main. Et j'aimerais vous dire que c'est ce Jésus-là qui vous a appelé. Alors, tu peux mettre la diapo suivante. La leçon de la fidélité et de la patience, il nous élève alors qu'il nous enseigne. Il nous délivre alors qu'il nous développe. Il nous console alors qu'il nous corrige. Quelqu'un dit amen. Il nous bénit pour mieux nous bâtir. Il nous donne afin que nous puissions devenir. Il nous guérit afin que nous puissions grandir. Est-ce que l'équipe de louanges pourrait venir nous rejoindre? Est-ce que le frère pianiste pourrait commencer à jouer quelque chose? Jésus a dit, et je finis par cela, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous savez que dans le grec, le mot puissance, c'est le mot dunamis. Moi, pendant des années, en tant que pentecôtiste, je pensais que dunamis, qui a donné le mot dynamite, ça voulait dire que l'évangile, c'est explosif. Et je l'ai dit, et parfois je l'ai prêché, vous savez, on en dit des bêtises, en tant que prédicateur. Mais un jour, j'ai gratté un peu l'affaire et j'ai pris conscience que dynamis, littéralement, cela veut dire puissance proportionnée à. Je donne juste un exemple. J'ai été pasteur à Mantes-la-Jolie, au Mureau, pendant des années. Et dans un quartier chaud de Mantes-la-Jolie, le fameux Val-Fouré, à un moment donné, ils ont réhabilité ce quartier. Il y avait 50 000 personnes qui se concentraient dans des immeubles, des grandes bars, moches, difficiles, concentration de délinquance. Et ils ont eu un plan assez intéressant et assez innovant, c'est de réduire à néant une tour sur trois. Alors vous me direz, quand les tours sont les unes collées aux autres, comment on fait? Eh bien, on fait venir des ingénieurs qui posent des plots de dynamite. Et il faut juste un calcul savant pour que la dynamite soit proportionnelle au bâtiment que ces gens voulaient détruire. Trop de dynamite, on explose tout le quartier. Pas assez de dynamite, on éclate quelques fenêtres. Mais si on met juste la dynamite proportionnelle à ce que l'on veut faire, alors l'immeuble tombe tout droit. Et j'ai vu un dimanche après-midi un immeuble de 22, une tour de 22 étages tomber tout droit sans faire aucun dommage. Quelqu'un dit waouh, c'est incroyable. Quand Jésus nous dit vous recevrez une puissance, il parle de cette puissance qu'il a déposée en moi, la puissance du Saint-Esprit, et c'est une puissance proportionnelle à ce qu'il me demande d'accomplir. Alléluia. Je peux, quand je fais rien, paraître être un garçon tout à fait ordinaire. Mais croyez-moi, parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, lorsque j'ose obéir et croire dans ce que Dieu me demande, alors je deviens un lion. Alléluia. Capable de faire des choses incroyables, non pas à cause de moi, mais à cause du Saint-Esprit qui habite en moi. Je disais au départ de ce message, il faut que nous puissions comprendre qui nous sommes. Pas un être ordinaire, tu n'es pas un être ordinaire. Tu es un cher enfant de Dieu. Dieu a misé sur toi. Il a payé le prix à la croix pour que tu puisses en réalité entrer dans les œuvres qu'il prépare pour toi. L'idée, c'est que tu discernes qu'est-ce que Dieu attend de toi, ce qu'il veut faire avec toi. Ça va prendre un peu d'écoute de Dieu, mais c'est absolument nécessaire pour entrer dans les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Et lorsque j'ai saisi, lorsque j'ai compris les choses et que j'ose obéir à Dieu, alors Dieu mettra en moi assez de puissance pour manifester ses œuvres, pour accomplir ses œuvres, pour que les hommes et les femmes que je côtoierai soient sauvés, pour que la puissance de Dieu soit relâchée et pour que la gloire de Dieu visite ma génération et mon pays. Je voudrais te demander, mon frère, ma sœur, est-ce que tu as compris quel dépôt le Seigneur a mis dans ton cœur? Est-ce que tu as saisi qui tu es? Est-ce que tu as compris ce qu'il attend de toi? Pas de chauffer une chaise le dimanche matin. Le temps que l'on vit, c'est un temps de ressourcement. Mais les vraies affaires, pour reprendre l'expression de John Wimber, c'est après. C'est quand tu vas sortir de ce lieu. L'église n'est pas le lieu dans lequel je viens. L'église, c'est le lieu d'où je sors, d'où je vais, pour accomplir les œuvres de Dieu. Et je voudrais que l'on puisse peut-être finir ce moment en disant, Seigneur, permets-moi d'être un homme à l'image de Pierre, qui a osé sortir de ma barque. Quelle est ta barque ce matin? Quelles sont les situations qui t'angoissent? Quel est le pas que tu n'as pas osé franchir? Quelle est la situation qui te bloque et qui t'empêche d'entrer dans les desseins de Dieu? Peut-être ce matin, quelqu'un a besoin de prendre position face à sa barque, en disant, Seigneur, je sors de ma barque. Est-ce qu'au milieu de nous, quelqu'un a entendu la voix de Dieu par le message et se lève ce matin simplement en disant, aide-moi, Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Donne-moi de sortir de ma barque. Oui, j'ai chanté ce matin, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais je veux entrer dans mon exploit et je veux oser croire que tu es avec moi. Quelqu'un ce matin entend, si quelqu'un comprend, lève-toi à ta place. Je crois dans cette nécessité de prendre position pour déclencher la victoire de Dieu. Alors lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Et pendant que notre sœur va chanter un cantique, eh bien je vais laisser le frère Bruno conduire la fin de ce culte. Merci Seigneur. Parce que tu vois tous nos amis qui sont debout et qui prennent position. Ils ont entendu, compris que tu as préparé des œuvres bonnes afin qu'ils entrent. Et à cause de ces plans bénis, ce matin, ils répondent à ton appel et te disent, Seigneur, je viens. Seigneur, accueille-les. Seigneur, libère et relâche ton onction. Seigneur, saisis ce matin chacun de ceux qui se rendent disponibles pour faire ton œuvre. Et glorifie ton nom, Seigneur, dans les heures, dans les jours et dans les mois à venir. Que au milieu de tous ces bien-aimés qui se sont levés ce matin, beaucoup racontent les œuvres de l'Éternel. Qu'ils puissent partager dans ce culte ce que tu auras fait avec eux et comment tu les auras puissamment utilisés. Relâche ton onction ce matin pour la plus grande gloire de ton nom. Merci parce qu'en se levant, tu les équipes. En se levant, tu scelles dans leur cœur quelque chose qui vient du ciel. Ils sont tes envoyés. Ils sont tes ouvriers. Et tu accompliras ton œuvre au travers d'eux. Et nous disons ensemble...